Sans plus attendre, frère Vincent, nous t'accueillons. Ah, tu vas t'asseoir. Donc frère Vincent va s'asseoir avec un petit problème de sciatique. Donc frère Vincent, comme son habit le dit, est frère franciscain, donc depuis 30 ans. Donc au début de sa formation, frère Vincent a eu la joie d'être formé sur les écrits de saint François d'Assise par un de ses frères aimés, le frère Thaddée Matura. Il est
qui a écrit un livre qui s'appelle Le radicalisme évangélique. Voilà, j'ai grandi à l'ombre de ce grand frère.
Très bien. Voilà, donc frère Vincent est bien évidemment engagé depuis toujours dans l'écologie. Voilà, la parution de l'encyclique Laudato Si l'a renouvelé dans cet engagement qu'il avait. Et il est fondateur d'une association, l'association Imagine, qui dans, à Limoges et dans les environs aide les gens dans la conversion écologique. Et il est par ailleurs constructeur de vélos avec des cadres en bambou. Donc si certains sont intéressés par le sujet, vous aurez le loisir d'en discuter avec lui. Donc frère Vincent va nous introduire à la spiritualité franciscaine. Il va nous expliquer comment considérer la terre comme témoin de la résurrection, renouvelle la spiritualité de l'écologie et l'espérance chrétienne.
Merci. Ce que je vous propose, en fait, c'est une méditation qui m'est venue pendant ce carême, pendant que je travaillais la terre et que la terre me travaillait. Voilà. Je crois que c'est justement ce rapport à la terre qui a été un peu cet échange mutuel. En travaillant au jardin, espérant et désespérant souvent avoir un jour des légumes. Déjà, première chose, je crois qu'il est bon que nous soyons ici à Notre-Dame du Chêne. Alors, Hervé vous a dit pourquoi ? À cause du Chêne. Et moi, je crois que c'est à cause de Notre-Dame qui va nous aider dans ce parcours de contemplation sur cette terre qui nous soutient, qui nous gouverne, comme dit François, qui est mère aussi, comme le rappelle le pape François. Je vais être très marqué par la spiritualité franciscaine. Donc quand je parle de François, c'est plutôt saint François, mon patron, sinon ce sera le pape François. Mais je ferai aussi appel à d'autres figures franciscaines qui sont voilà, ceux qui m'ont précédé et dont je suis l'héritier. La terre, on connaît le récit du commencement. Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre était vague et vide, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. À ce moment-là, la terre est à la fois la fontaine baptismale et celle qui est baptisée. C'est elle qui recueille l'eau, qui est fécondée par l'Esprit, et c'est elle qui reçoit la mission de porter la vie. Que la terre foisonne d'une multitude d'êtres vivants. Voilà le commencement, voilà ce baptême originel de la terre. Je crois que dans cette vision du salut en Jésus-Christ, c'est important d'avoir cette vision de la terre et de cette mission de porter la vie. Dans la spiritualité franciscaine, cette mission de la terre de porter la vie, elle est aussi la mission d'accueillir le vivant. Vous savez, quand on parle de pourquoi Dieu s'est fait homme, depuis saint Anselme de Canterbury, il y a un peu deux façons différentes de voir les choses. Saint Anselme qui dit « Ah, mais c'est parce que les gens sont méchants et il n'y a que le Fils de Dieu qui pouvait racheter l'offense faite à Dieu et donc c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Sans ça, il n'aurait pas eu besoin de se déplacer. » Dans la vision franciscaine, Dieu est venu parmi ses créatures par amour. Avec cette idée que pour ceux qui sont mariés et qui sont entrés en alliance avec quelqu'un, c'est pas parce que l'autre est un abruti que vous êtes entrés en alliance. C'est bien par amour que vous êtes entrés en alliance. Et c'est cette même idée qu'il y a dans la spiritualité franciscaine, que si Dieu est venu sur terre, c'était par amour des créatures. Et de toute éternité, la terre s'est préparée à accueillir le Fils de Dieu. Voilà cette vision franciscaine. Je n'ai pas le temps de vous faire une lecture du Cantique des créatures, mais déjà, on voit cette venue du Fils de Dieu en trame dans le Cantique des créatures. Donc, cette mission originelle, ce baptême de la terre à l'origine, c'est dans la venue du Fils, dans la perspective de la venue du Fils de Dieu. Ensuite, c'est Marie qui va nous permettre de comprendre, de contempler la terre dans sa relation à Dieu. Marie, à l'Annonciation, elle a entendu cette parole. De toi va naître un fils, il régnera sur le trône de David. Et Marie s'interroge, comment cela va-t-il se faire? Rien n'est impossible à Dieu. Et je pense que le questionnement de la terre est le même. Voilà, tu vas porter le vivant, le Verbe de Dieu qui va venir. Comment cela va-t-il se faire? Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, c'est un peu cette mission commune de la terre et de Marie qui a fait de Marie, au Concile d'Éphèse, la mère de Dieu. Mais je crois qu'on peut le dire aussi de la terre. Le Verbe de Dieu se fait homme et il reçoit de la terre les 90% d'eau qu'il compose, les minéraux, les protéines et même toute cette évolution du patrimoine génétique depuis 4 milliards d'années. C'est ça ? 4 milliards d'années ? Donc voilà, je crois que Jésus, fils de Marie, il est aussi fils de la terre. Et que si le Concile d'Éphèse a dit Marie, mère de Dieu, moi, j'ose le croire de la terre. Une étape importante, fondamentale dans le parcours de Marie, c'est au pied de la croix. Je vais reprendre un autre texte d'un de mes frères. Excusez-moi, il faut que je mette les lunettes et que je retrouve le texte. Je ne le connais pas suffisamment par cœur. Mais on a un frère, Jacopo Nedatodi, grand poète franciscain du Moyen-Âge, qui a écrit un texte très très beau qui s'appelle le Stabat Mater. Debout, la mère des douleurs près de la croix était en pleurs quand son fils pendait au bois. Alors son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperça. Voilà, je ne vous lis que ces deux premières strophes du Stabat Mater. Mais cette tristesse, ces pleurs de Marie, ce cri de Marie, mère du vivant, c'est le cri de toutes les femmes qui ont perdu un enfant. Et lorsque j'étais à Besançon, nous étions dans un petit sanctuaire où il y avait une Pietà du XIVe siècle, petite sculpture très belle, et le monument de la Libération dans lequel était écrit 5000 noms. 5000 noms de personnes mortes pendant la dernière guerre, mortes de fait de guerre. Ce n'était pas uniquement des soldats, les gens qui ont perdu leur vie au combat, mais qui ont perdu leur vie par une balle perdue, voilà. Et beaucoup de personnes, étonnamment beaucoup de parents ayant perdu des enfants très tôt, venaient à ce sanctuaire. Et pour moi, cette image de la Pietà qui reçoit le corps du Fils de Dieu sur les genoux, c'est cette vision de toutes ces femmes qui ont perdu un enfant trop tôt, qui ont perdu un enfant au combat, épouses d'hommes décédés, épouses de soldats, voilà. Toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, voilà. Et Marie au pied de la croix, Marie au Stabat Mater reçoit le corps du vivant, le corps sans vie. Et après Marie, c'est le tombeau qui reçoit, c'est la terre qui reçoit ce corps sans vie. Étonnamment, vous savez, Nicodème, l'un des disciples de la première heure, on le voit dans l'évangile de Jean, il pose cette question à Jésus. Est-ce qu'un homme âgé doit retourner dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau? Et à ce moment-là, on revoit Nicodème qui, justement, avec Joseph d'Arimathie, fait les préparatifs du défunt, hein, l'onction du corps pour confier à la terre le corps du vivant. Donc on retrouve dans ce cheminement de Marie et de la terre le même geste, de recueillir le corps de celui qui était la vie, le corps de celui que la terre et Marie s'étaient préparés à accueillir comme une promesse. À la suite de Marie, vous savez, la tradition de l'Église qui a médité beaucoup sur la figure de Marie, dans la lecture des évangiles, on se rappelle que Marie a entendu les paroles de l'ange et elle les a méditées. Elle gardait ces paroles dans son cœur, voilà. Et au samedi saint, lui reviennent les paroles de l'ange. Comment cela va-t-il se faire? Rien n'est impossible à Dieu. Et au samedi saint, la tradition de l'Église, seule Marie garde l'espérance. Alors que les apôtres se dispersent, on le verra sur le chemin d'Emmaüs, seule Marie garde l'espérance. Et disent certains, seule Marie, dans le secret de son cœur, connaît l'instant où le Fils de Dieu renaît. Non, pas seule Marie. La terre est témoin de la résurrection. Au matin de Pâques, la première, Marie-Madeleine, elle aussi vient pour vénérer le corps, tout ce qui restait de celui qui l'avait aimé en la respectant. Et ce corps n'est plus là. Et on voit dans l'Évangile l'effondrement de Marie-Madeleine qui n'a même plus le corps à honorer. Et Marie-Madeleine, qui du coup rencontre le ressuscité, on l'a appelé l'apôtre des apôtres. Après viennent Pierre, Jean, qui vont être témoins du ressuscité. Et nous dit saint Paul, il est apparu à 5000 frères et même à l'avorton que je suis. Tous sont témoins du ressuscité. Mais aucun n'est témoin de la résurrection. La tradition de l'Église nous dit, Marie, dans son cœur, connaît l'instant. Mais la terre est témoin de ce moment où le Fils de Dieu renaît du tombeau. Et je suis convaincu que cet instant est inscrit dans la terre. Il y a même un auteur à l'École polytechnique de Lausanne qui a écrit un livre qui s'appelle Le manuscrit du Saint-Sépulcre. Il en a fait un espèce de roman policier d'enquête sur des traces des traces qui seraient inscrites dans le Saint-Sépulcre du moment de la résurrection. Je ne suis pas sûr que les traces soient tout à fait physiques de cette façon-là, mais je suis sûr que cet instant de la résurrection s'est imprimé dans la terre comme le visage du crucifié s'est imprimé dans le suaire de Surin. Et je suis convaincu que cet instant de la résurrection, c'est celui qui retentit chaque printemps et que la terre en a fait sa liturgie. Aussi, ce que je crois, ce n'est pas tant que nous invitions la terre et la création à nos célébrations, mais ce que je crois, c'est que nous devons inscrire nos célébrations et nos prières dans cette grande liturgie de la terre de toute éternité. Il me faut vous raconter très rapidement comment on célèbre Pâques à Besançon, dans la vallée des Mercureaux. Il y a un petit groupe d'ados qui arrive le samedi saint. On fait avec eux la préparation de la célébration, la proclamation des lectures qui vont avoir lieu dans le vallon des Mercureaux. Et la répétition des chants et tout ça. Et on va se coucher à 10h30. Vous imaginez un week-end avec des ados où ils arrivent à se coucher à 10h30. Eh bien là, ça, on y arrive. Et à 4h30 du matin, on se rassemble dans la nuit autour du feu. comme dans toutes les liturgies, on allume le cierge pascal, et de ce cierge pascal, on allume les flambeaux qui vont nous guider et nous précéder dans ce chemin qui descend dans la vallée du Mercure. Première étape, on lit le livre de la Genèse. Et c'est arrivé de nombreuses fois qu'après le chant du psaume de la création ou de la valse des créatures, on entende cette multitude des chants d'oiseaux. Étape suivante, on continue à descendre. On arrive au milieu de l'ail des ours et au bord du ruisseau. Et nous lisons le récit de la traversée de la mer Rouge au bord du ruisseau. Plusieurs années, nous avons eu des baptêmes au ruisseau, au point que même une année où il y avait des chrétiens évangéliques avec nous, ils se sont dit, mais ces catholiques, ils sont plus fous que nous de faire un baptême au ruisseau dans la nuit de Pâques. Et puis, nous traversons ce ruisseau comme les Hébreux avaient traversé. Et on remonte, on continue et on lit un autre texte, donc la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel, pour dire comment un peuple renaît à nouveau. Et on continue et on monte donc dans cette crypte au monument de la Libération pour continuer la célébration avec les jeunes, les ados, les familles. Et ce qui est étonnant, c'est que le jour se lève et que nous voyons les visages s'éclairer, que nous découvrons à mesure de la célébration tous ceux qui participent à cette célébration de la résurrection, qu'ils soient humains ou qu'ils soient les autres êtres vivants, les arbres, les oiseaux et les lapins, enfin voilà. Et c'est, je crois, cette célébration qui m'a permis de comprendre comment notre célébration s'inscrivait dans une célébration beaucoup plus vaste qui est celle de la création tout entière. François nous dit, considère, homme, en quelle excellence t'a placé ton Créateur. Il t'a fait à sa ressemblance et à ton image, mais les autres créatures servent leur Créateur mieux que toi. Alors ce que je vous propose au terme de cette méditation, c'est de faire de nos célébrations, à laquelle on entend la cloche nous appeler, d'inscrire nos célébrations dans cette grande liturgie de toute la création. C'est ce à quoi nous invite François à la fin de son cantique des créatures, lorsqu'il dit « Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. » Et je vous propose, avec Hervé, je vous propose qu'on prenne ça comme chant final et peut-être, non, parce que je crois qu'il va y avoir le temps des questions, mais peut-être voilà, comme préparation avant que notre Eucharistie s'inscrive dans cette grande liturgie cosmique que savent si bien faire nos frères orientaux. On vous le chante une fois et on vous invite à le chanter avec nous après.
Louez et bénissez mon Seigneur. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Louez et bénissez mon Seigneur. Rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité.
Merci à vous.